Europe 1.
La semaine politique Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
Et comme tous les vendredis soirs, je suis entouré de Bruno Jeudy. Bonsoir.
Bonsoir,
rédacteur
Pierre.
En chef politique à Paris Match. Bonsoir à Jacques Serret.
Bonsoir Pierre.
Du service politique d'Europe 1. Bonsoir à Pascal Sault, directeur
Bonsoir.
Adjoint de la
Bonsoir,
rédaction.
Pierre.
Du journal du dimanche. Alors Jacques Serret, il a encore des dents de lait, donc je ne vais pas lui poser la question, mais Bruno et Pascal, quand même, Jean-Louis Trintignant, ça nous fiche tous un coup quand même, hein, Pascal.
Bah oui, c'est un acteur qui était au sommet depuis si longtemps, qui a traversé plein d'épreuves personnelles très dures en plus, donc il y avait un attachement fort à sa personnalité, à son travail, parce qu'il a quand même tourné dans des films qui ont marqué l'histoire du cinéma français. On a entendu tout à l'heure la célèbre musique d'un homme et une femme.
Mais
il y a eu d'autres films aussi tout aussi forts dans lesquels il a brillé. Donc c'est un moment important dans l'histoire du cinéma et un moment de deuil qui, je pense, qui va toucher beaucoup de gens.
Bruno Jeudy.
Oui, c'est vrai que je partage absolument ce que vient de dire Pascal. J'ai plus de dents de lait, donc j'ai beaucoup de souvenirs de films de Jean-Louis Trintignant. C'était une personnalité... avec beaucoup de parcours douloureux aussi. On a suivi, les Français ont suivi ça. Et ça fait partie de ces acteurs qui ont construit la légende du cinéma français. Il y a quelques mois, c'était Jean-Paul Belmondo qui est mort. Là, c'est Jean-Louis Trintignant. C'était un autre registre du cinéma français. Alors, évidemment, la musique, vous avez raison, c'est Jean-Louis Trintignant, c'est d'abord une voix, c'est ensuite un air de musique. Mais c'est aussi des films forts. Moi, j'aime bien aimer Z, par exemple. C'est quand même un des grands films.
C'est Costa Gavras, ça, non ?
Costa Gavras. Et puis c'est aussi quelqu'un qui était pilote. Il a eu beaucoup de, c'était éclectique quoi.
Bon, on reviendra de toute façon sur la mort de Jean-Louis Trintignant tout à l'heure dans le journal de 19h. On va nous parler d'une autre musique, celle des législatives qui, avec ce deuxième tour dimanche, arrive et se termine. Évidemment, il y en a un qui n'a pas perdu le nord, si j'ose dire, c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui, encore ce matin sur BFM TV, garde un objectif très très clair.
Vous serez où lundi matin ?
Eh bien, je serai chez moi, voulez-vous que je sois. J'attendrai le coup de téléphone du président de la République pour me demander de former le gouvernement.
Voilà. On a dit quand même que Jean-Luc Mélenchon avait fait cette campagne de publicité. C'est digne de Jacques Séguéla, là. Hein. On est vraiment là dans le marketing pur et dur, le marketing politique, alors que Marine Le Pen s'était complètement assoupie au lendemain du second tour. Il a occupé l'espace, il a dit qu'il serait élu Premier ministre. Et là, évidemment, première question, première réponse. Bruno Jeudy, ça vous étonne ?
Non, de la réponse de Jean-Luc Mélenchon ne m'étonne pas. Jean-Luc Mélenchon a relevé le gant. Comme on dit dans les duels naguère, oui, et il a décidé de l'engager, là où Marine Le Pen a renoncé à poursuivre le duel à distance avec Emmanuel Macron après sa défaite à la présidentielle. Il faut reconnaître que sur le plan purement stratégique et tactique politique, ça a plutôt fonctionné. Il ne fait pas un score mirobolant au premier tour, mais n'empêche, son alliance bouscule le jeu. Et qui aurait imaginé, au terme de cette séquence électorale de 2022, qu'il y aurait un peu de suspense dimanche soir ? Pas grand monde, à vrai dire. Et après la campagne de premier tour de l'élection présidentielle, et même au début de la NUPES, il y a 6 semaines, ça paraît une éternité. Donc... moi, je continue à penser que ce sera compliqué pour Jean-Luc Mélenchon d'avoir le coup de fil lundi matin. Mais après tout, il ne faut jamais...
On regarde quand même les projections, 255-290, je parle en termes de sièges, de projections pour ensemble.
C'est à l'avantage d'ensemble,
200 pour... NUPES.
Il faut un sursaut du premier parti de France, qui était les abstentionnistes.
Bon, Jacques Serret, pour Europe 1.
Bon, en tout cas, on peut dire que le pari est réussi, le pari de Jean-Luc Mélenchon, depuis le début. C'est-à-dire qu'il a réussi à instiller l'idée auprès d'une partie des électeurs qui pourrait, en du moins, instiller le doute.
Il y en a même qui ont oublié que ce n'est pas lui qui est arrivé second.
C'est-à-dire qu'il a créé la
présidentielle.
C'est instillé tout au long de cette campagne des législatives la possibilité que peut-être il pourrait arriver à Matignon. Et au final, même ceux qui peuvent suivre de loin la politique sont arrivés à se poser la question, mais est-ce qu'il pourrait vraiment terminer à Matignon ? Et donc au final, oui, c'est une campagne plutôt réussie de ce point de vue-là.
Pascal Sault, pour le JDD.
Il y avait une espèce d'ambiguïté qui ressortait dans beaucoup de sondages et sur laquelle, je pense, il a dû s'appuyer, qui était que... une majorité de Français ne voulait pas que le président de la République réélu, Emmanuel Macron, ait une majorité absolue. Donc, il a surfé là-dessus et c'était la bonne stratégie, comme l'ont dit tous les deux, et Bruno et Jacques. Et ça, c'est quelque chose qui fait que, quoi qu'il arrive finalement, ça restera quand même une petite victoire pour lui, parce que même si il est peu probable qu'il obtienne la majorité absolue, la majorité qui lui permette de postuler au poste de Premier ministre, il restera qu'il a fait progresser très largement son camp, qu'il a réussi un peu au forceps, mais il a réussi quand même à unir la gauche. Donc voilà, il restera comme l'un des vainqueurs. Et en plus, il pourra se placer comme l'un des chefs, sinon le principal chef de l'opposition à la nouvelle majorité.
Alors, petit retour sur cette semaine politique, c'était mardi soir. Emmanuel Macron s'envolait du tarmac d'Orly. Et justement, pour, appeler justement les électeurs à voter pour Ensemble, voilà ce qu'il disait sur ce tarmac. Et on va s'intéresser à un mot en particulier dans son discours.
J'en appelle donc à votre bon sens et au sursaut républicain. Ni abstention, ni confusion, mais clarification. Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République.
Aucune voix ne doit manquer à la République, dit Emmanuel Macron. République tout court. Pendant ce temps-là, Jean-Luc Mélenchon est en meeting à Toulouse et voilà ce qu'il répond.
Son bateau coule, Macron prend l'avion. Avant de partir, il nous a fait un sketch sur le tarmac. C'est la mode à la Trump. Je veux juste espérer que le président français n'aille pas prendre toutes les mauvaises habitudes de M. Trump.
Bon, voilà, ça c'est œil pour œil, dent pour dent, j'allais dire. Hein.
Mais il nous a rejoué un peu.
Bruno, je dis.
J'allais dire, pour être un peu ironique, Emmanuel Macron nous a rejoué « C'est moi la République », mais dans l'autre sens. Je trouve que c'était surjoué.
La République, c'est moi, lors de la perquisition des locaux de Jean-Luc Mélenchon.
Qui avait dit bien abusivement et de manière très agressive,
Jean-Luc très
Mélenchon, et ça lui avait beaucoup, beaucoup nuit, beaucoup coûté, y compris judiciairement. Et il ne l'a jamais regretté, mais in petto, sûrement. Je trouve que là, Emmanuel Macron a inversement surjoué, dramatisé le vote utile parce qu'il était sans doute fort mari des résultats du premier tour. Parce que quand même, quand on regarde un peu les résultats du premier tour du camp macroniste, certes, ils sont en tête d'une courte voie, mais c'est quand même un recul. Et surtout, c'est un recul et par rapport à 2017, sûrement, arithmétiquement, mais également, j'allais dire, par rapport à la campagne présidentielle, qui n'était pas si lointaine, on a l'impression qu'elle a été totalement absorbée, oubliée par les électeurs. Et c'est vrai que, Pascal l'expliquait tout à l'heure, on a l'impression que les Français ne veulent pas donner la majorité à Jean-Luc Mélenchon, sinon il aurait fait un score bien meilleur dimanche dernier. Mais ils ne veulent pas non plus donner un blanc-seing à Emmanuel Macron. C'est un peu le paradoxe de ces élections législatives. Et Emmanuel Macron, à vouloir enjamber toutes les élections comme il l'a fait, ça lui a plutôt réussi à la présidentielle, ben là, il tombe sur un os cette fois-ci.
On peut le dire, parce qu'il y a eu quand même, en tout cas, les candidats de la NUP ont réussi à détraquer le discours macroniste beaucoup pendant cette dernière campagne.
Moi, ce qui me frappe...
En disant, vous allez voter pour M. Macron, ça signifie ceci, ça signifie cela, c'est la fin de la démocratie...
Le cachet, l'argent caché, etc.
Voilà. Il y a eu ce slogan, quand même.
Ce qui, moi, m'a frappé plutôt, c'est le fait qu'en réalité, les électeurs peuvent être un peu surpris par la stratégie du président. Il y a cette mise en scène très dramatique, avec le tarmac, l'avion qui part en plus sur une zone de guerre, dans un endroit dangereux et où il se passe des choses graves pour la planète et pas seulement pour la France. Et d'un autre côté, les gens se rappellent quand même qu'entre les deux tours de l'élection présidentielle, il ne disait pas exactement la même chose des mélenchonistes. Au contraire, il avait un peu tendance à leur faire un appel, à faire barrage au Front National, à dire on entendait des ministres, des candidats qui disaient, ou des futurs candidats aux législatives qui disaient mais finalement, on n'est pas si différent que ça.
Et mais ça, c'est le jeu politique, non ?
C'est le jeu politique, mais en même temps, l'électeur n'est
regardez
pas
si... Regardez, Jacques Serret, il est mort de rire.
L'électeur n'est pas si bête. Je veux dire, comment il peut comprendre qu'on lui explique à un moment qu'on n'est pas si loin et puis après, c'est les bolcheviks avec le couteau entre les dents. C'est un peu difficile.
On continue sur le marketing politique, Jacques Serret.
Oui, mais stratégie détraquée, vous disiez, parce qu'en fait, le problème, à mon avis, de cet entre-deux-tours, c'est que
la Macronie a employé exactement la même stratégie que celle de l'entre-deux-tours de la présidentielle à celle aujourd'hui des législatives. Alors que l'adversaire n'est pas le même. C'est-à-dire stratégie de la dramatisation, tout simplement. On l'a vu avec quand Emmanuel Macron devait affronter Marine Le Pen lors de l'entre-deux-tours pour la présidentielle. Dramatisation face à Jean-Luc Mélenchon. Sauf que les adversaires ne sont pas les mêmes. Et les électeurs à convaincre des deux côtés, finalement, entre-deux-tours présidentiels, à les convaincre la gauche et là, à les convaincre la droite, finalement, on ne peut pas les convaincre en ayant le même discours. Et donc, ce discours se retrouve à être malléable et pas clair finalement pour l'électorat.
On a une nouvelle, une très très ancienne inconnue, c'est à nouveau l'abstention, même si elle commence à être un peu connue malheureusement. Comment est-ce qu'elle va planer? Certains observateurs se disaient, il va y avoir un sursaut, puis finalement les sondeurs nous disent pas du tout, au contraire, elle va être encore plus massive qu'au premier tour.
D'abord, on a le précédent 2017. Elle avait augmenté au deuxième tour par rapport au premier tour. Alors, il faut dire qu'en 2017, il y avait vraiment plus d'enjeux au second tour, tant la majorité macroniste de l'époque allait être large et évidemment nette. Cette fois-ci, il n'y a aucun signe qui montre une mobilisation, un sursaut de mobilisation dimanche. Donc le premier parti de France, c'est le parti des abstentionnistes. Et s'il y avait une mobilisation, on peut même imaginer qu'elle serait en faveur de Jean-Luc Mélenchon, puisque finalement la petite dynamique est plutôt dans ce camp-là. Donc pour l'instant, on est plutôt, j'allais dire, sur un deuxième tour qui risque de se jouer à périmètre égal. Donc c'est celui qui mobilise le mieux son camp, les jeunes pour Jean-Luc Mélenchon. On a vu qu'il n'avait pas totalement récupéré ce qu'il avait pu mobiliser.
Et puis des figures, des histoires, comme cette femme de chambre d'hôtel qui a réussi à
nouveauté,
à s'imposer aussi.
De ce point de vue-là, ce que vous indiquez, c'est les profils des candidats mélenchonistes.
Ça, ce sont des histoires d'hommes,
D'hommes et de femmes, comme vous dites, elles sont aujourd'hui dans le camp de la NUPES. En 2017, elles étaient dans le camp de La République en marche,
ça reste très statutaire, j'allais dire.
Le
storytelling, il était du côté de l'RM en 2017.
C'est toujours plus difficile de vendre de la continuité à de la nouveauté. Or, la continuité, elle est forcément dans le camp macroniste, puisqu'il a été réélu. Il faut rappeler quand même qu'il est en train de réaliser aussi une performance dans la 5e République. Il a été le premier président réélu hors période de cohabitation. Et s'il gagne les législatives, on va dire qu'il serait... En tous les cas, ce ne serait pas le premier, mais enfin, c'est assez rare que les majorités se succèdent sous notre régime de la 5e République.
Jacques Seret, pour Europe 1.
Mais il a été le premier président à être réélu une nouvelle fois lors d'un quinquennat. Il pourrait être aussi le premier à ne pas avoir une majorité au lendemain d'une élection présidentielle.
Il y a eu Michel Rocard quand même.
Pourrait avoir une majorité relative.
La deuxième fois qu'on aurait une majorité relative après
Que les auditeurs comprennent bien, qu'est-ce que ça signifie une majorité relative?
Ça veut dire que dimanche soir, pour nos auditeurs, c'est simple, il n'aurait pas 289 députés.
289 mais est-ce que c'est grave, docteur?
Oui, c'est grave. Pourquoi? Parce que ne pas avoir la majorité absolue, c'est l'assurance de ne pas pouvoir, j'allais dire, dérouler son programme comme l'a promis le président, si tant est qu'il tienne toutes ses promesses. S'il n'a pas la majorité absolue, il sera obligé d'aller chercher des voix dans les autres groupes pour pouvoir composer et faire passer ces textes.
Et en plus, il y a une difficulté supplémentaire à la période précédente, donc celle de 1988, quand Mitterrand n'a eu qu'une majorité relative, c'est qu'à l'époque, il y avait une espèce de sésame magique qui s'appelait l'article 49.3 de la Constitution, auquel Michel Rocard, en 2 ans et demi de gouvernement, a recouru à 28 reprises. 28 reprises, vous vous rendez compte, ça veut dire une fois par mois. Et maintenant, en réalité, maintenant, la loi n'autorise plus ce recours systématique, elle limite à une fois par session. Alors, il peut y avoir des sessions extraordinaires. Bon.
Pour qu'il n'y ait pas d'abus.
Mais en tout cas, ça peut difficilement être plus de 2 fois par an au maximum. Donc, évidemment, ça oblige à trouver une culture du compromis. Et c'est là que tout un débat qui est aussi en arrière-plan de ce deuxième tour, c'est avec qui, éventuellement, ensemble pourrait s'allier. Est-ce que c'est avec les Républicains, un certain nombre des Républicains? Est-ce que c'est avec des éventuels socialistes dissidents? C'est la question.
C'est la question. 18h17, première pause dans cette semaine politique. On revient juste après avec Bruno Jeudy de Paris Match, Pascal Saud du JDD et Jacques Seret d'Europe 1. À tout de suite.
La semaine politique. Pierre de Villeneuve sur Europe 1.